Je prends l'énergie de Belly. Effectivement, elle est vaillante, elle veut réussir, mais que devient-elle? Je demanderai à mon ami Denis encore, qui est mon lecteur préféré du soir, de nous lire un autre passage. Denis, nous sommes à la page... Je mets mes lunettes, je suis vieille.
Je peux peut-être aider à la page 10. Ce n'était pas intentionnel. Je m'excuse.
Parfait. À la page 10, Denis, alors...
Quel salaud. J'ai honte.
Elle s'appelle Denis. Je ne sais pas. Parfait. J'enlève mes lunettes. Voilà.
C'est quelle page, Nicole?
C'est la page 10. Ça commence par « Elle savait » et je te dirai à quel moment t'arrêter. Merci, Denis.
Elle savait jusqu'où pouvait conduire une crampe d'eau, une pleine lune et le destin entamé, pour cause. 10 ans auparavant, tel que l'indiquait le passé dans ses yeux, elle avait jeté en haute mer son 2e garçon lors d'un voyage clandestin par le seul pouvoir de l'absurde. À l'automne 1987, Belly avait pris part au dernier embarquement du marin Frère Fanon à destination des belles plages de la Floride. C'était sur un voilier artisanal en boissier de chêne ou d'orme, 12 mètres de long, qui ne pouvait se vanter d'être flambant neuf. Il chargeait tout de même pour l'occasion hommes, femmes et enfants, des rêves à l'appel et des sacs de charbon pour ne pas éveiller le soupçon des îles bahamiennes, à côté desquelles il fallait passer littéralement contre vents et marées dans ce large couloir du nord de l'archipel. Frère Fanon, pour être tout à fait honnête, était plus un petit caboteur qu'un grand capitaine des mers. Il vivait des transbordés hebdomadaires de Port-au-Prince aux côtes perdues de la Grand'Anse. Il embarquait humains et marchandises à l'aller et au retour, déchargeait le grand bateau et desservait, au passage, de petits ports inexistants, suivant les aléas de la clientèle et de la clandestinité.
Merci, Denis. Alors, je ne vais pas... Le passage qui vient juste après... C'est celui qui nous intéresse, mais on ne va pas le lire, puisqu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas encore le livre. On va les y emmener tout doucement, mais on ne va pas lire ce passage. Et voilà Belly qui a jeté... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balancé un enfant à la mer. Cet enfant s'appelle Nathan. C'est le second. Elle l'a balancé comme ça, en pleine mer. Belly, avec cette énergie, cette volonté... Eh bien, elle va finir aussi par balancer 2 autres enfants dans l'adoption. Cette mère extraordinaire qui va pleurer et sa fille décédée, qui va pleurer, la douleur va s'imprégner dans ses yeux. Cette mère extraordinaire va finir par balancer 3 enfants. Comment on peut expliquer ça?
Il me semble qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, déjà, c'est très dur à expliquer. Déjà, le meurtre est dur à expliquer. C'est-à-dire, voilà. C'est toute la raison de plusieurs romans. Hein, expliquer, ne serait-ce que le petit roman d'Albert Camus, À l'étranger. Enfin, je dis petit en termes de volume. Hein, c'est une grande œuvre. Encore l'infanticide, c'est quasi impossible à expliquer. Je veux dire, il n'y a pas d'explication rationnelle pour le fait de balancer un enfant à la mer. Sauf que dans le cas de Belly, j'ai essayé, en tout cas, d'expliquer si l'enfant était déjà en vie ou si l'enfant était déjà mort. J'ai essayé ce doute-là. Mais quant à faire adopter ces 2 enfants, c'est-à-dire il y a 2 choses. Entre se déposséder de ses enfants en les faisant adopter et se déposséder d'un enfant dans le cadre d'une mère tumultueuse, etc., un enfant qu'on peut croire mort, etc., c'est 2 choses différentes. Tout ce que j'aurais à vous dire, c'est que l'énergie, la force de vie, ça, c'est à double sens. C'est à double tranchant, plutôt. Autant que Belly prend des décisions radicales pour son bien, pour affronter, etc. Autant qu'elle prend aussi des décisions radicales qui se révèlent être irréversibles et regrettables. Voilà. Et elle se dépossède de Nathan à l'occasion du voyage échoué. Elle se dépossède de ses deux enfants qu'elle fait adopter, donc l'une en France et l'autre au Canada. Mais il n'y a pas une explication. C'est ça toute la tension du roman, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas une explication définitive fournie par cette dépossession. Le narrateur est toujours dans le doute, et j'espère le lecteur aussi doit rester dans le doute.
Le narrateur est dans le doute, mais on ne peut s'empêcher de se dire, n'est-ce pas là une écriture un peu métaphorique, puisque Bélie, on peut imaginer que c'est une mère au sens la mère terre, la mère patrie, la mère Haïti, la mère Guadeloupe, c'est une mère. Cette mère qui, quand elle fait le premier geste, c'est une douleur terrible au dos qui fait que finalement, elle ne sait plus si elle est dans le monde de la raison ou si elle est dans le monde de la folie. Donc elle fait ce geste pour se soulager momentanément. Elle cherche une solution. Donc finalement, c'est absurde, on ne comprend pas ce geste. Puis quand elle va donner à adopter, elle est dans un moment difficile. Je me dis, est-ce que on ne pourrait pas imaginer que c'est une écriture métaphorique de toutes les tentatives de solutions qu'on essaie de trouver quand on est un pays en difficulté? On essaie de se dire, finalement, et si on faisait ça, ou si on faisait comme si, et les enfants même partent de leur plein gré, quelquefois. Quelquefois, on a le sentiment que si on prend telle décision avec tel autre pays, c'est peut-être la bonne solution. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de se démunir de ses forces ?